Bonjour, je m'appelle Étienne Grandmont et je veux prendre le temps de vous remercier. Il y a maintenant un an, vous m'avez élu comme député du comté de Taschereau. Vous m'avez accordé votre confiance pour être votre voix à l'Assemblée nationale. À chaque jour depuis, je travaille fort pour porter vos revendications, pour mettre en lumière vos enjeux et pour concrétiser vos espoirs. Je suis profondément fier d'être votre député. Merci pour la confiance.
Message d'Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIL ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Vous vous intéressez aux différents genres de rock? Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Toute simplicité. Qu'y a-t-il dans la nature du luxe qui énerve et détruit les nations? Sommes-nous sûrs que nos propres vies ne recèlent rien de tel? Le philosophe est en avance sur son temps jusque dans sa vie matérielle. Il ne se nourrit, ne s'abrite, ne se vêt et ne se chauffe comme ses contemporains. Comment pourrait-on être un philosophe et ne point entretenir sa chaleur vitale par de meilleures méthodes que les autres hommes? Lorsqu'un homme se chauffe par les diverses manières que j'ai évoquées, que peut-il vouloir d'autre? Certainement pas davantage de chaleur du même type, une nourriture plus copieuse et plus riche, une maison plus vaste et d'une splendeur encore plus ostensible, des vêtements plus fins et plus variés. des feux perpétuels, plus nombreux et plus chauds, et ainsi de suite. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il lui faut pour couvrir ses besoins vitaux, un autre choix s'ouvre à lui que celui qui consiste à obtenir des choses superflues. Ce choix, c'est de s'aventurer maintenant dans la vie, car c'est de ce moment-là que commence sa vacance du labeur le plus humble. Pourquoi l'homme s'est-il si fermement enraciné dans la terre, si ce n'est pour s'élever en proportion égale vers les cieux?
Impossible d'écrire bien et sincèrement si on ne fait pas dans la joie. Le corps, les sens doivent travailler avec l'esprit, l'expression et l'acte du corps tout entier. Que notre parole soit parcourue de vaisseaux. L'intelligence est impuissante à exprimer la pensée sans l'aide du cœur, du foie et de tous les membres. Je sens souvent que ma tête se dresse trop sèche, alors qu'elle devrait être immergée. Un écrivain, un homme en train d'écrire, est le scribe de toute la nature. Il est le blé et l'herbe et l'atmosphère en train d'écrire. Le corbeau, l'oie, l'aigle tiennent ma plume, et le vent porte ses pages aussi loin que je vais. Le corbeau, l'oie, l'aigle tiennent ma plume, et le vent porte ses pages aussi loin que je vais.
Je veux des cultivables pour l'espoir. Je veux des chevauchées de rêves dans la nuit noire. Je veux des navires de paix dans nos mémoires.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. J'ai quelques annonces à vous faire et suite à ce que j'ai lu cette semaine d'intéressant. Dans ma première annonce, en fait, ma seule annonce pour aujourd'hui, il y aura la semaine prochaine, jeudi le 19 octobre à 16h, au Salon du communautaire. Le Salon du communautaire, c'est toute la journée, de 13h à 19h. Et dans le Salon du communautaire, on aura une conférence de M. Michel Pigeon, qui est notre invité aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, on va pouvoir un peu parler de son livre et de sa thèse qui porte sur les jeunes et les changements climatiques. Alors, pour ceux que ça intéresse, qui voudront aller plus loin, je vais le rappeler à la fin de l'émission. Monsieur Pigeon va donner une conférence au Salon du communautaire. Ça se trouve à avoir lieu au centre d'achat Place 4 Bourgeois à Sainte-Foy. Tout le Salon communautaire est là, puis à 16h, Monsieur Pigeon. Ensuite de ça, dans mes lectures, j'ai un article du Devoir de la semaine dernière. C'est le Devoir de samedi. Et c'est toute la réflexion sur les nouvelles technologies. Et je le trouve assez intéressant. C'est un article de Régent Bergeron, philosophe. L'auteur a notamment publié « Je veux être un esclave », l'école amnésique ou les enfants de Rousseau, Homère et la vie et rien d'autre. Alors, ce qu'il nous dit, voilà quelques jours, plusieurs se sont émerveillés du fait qu'une résidence pour aînés avait acheté un chat-robot pour faire le service aux tables lors des repas. Certains ont trouvé cela amusant et d'autres très mignons, touchés qu'ils étaient par les grands yeux et le sourire que le concepteur avait pris soin de plaquer sur le devant de leur création afin de lui donner un petit côté humain. En fait, il est difficile de ne pas être ébahi, voire médusé, devant les progrès spectaculaires des technologies numériques qui envahissent de plus en plus notre quotidien. Qu'on le veuille ou non, toutes ces inventions influencent dorénavant nos façons de socialiser, de consommer, de se divertir et de penser. Alors, M. Bergeron, lui s'inquiète de ça. Il dit « Sommes-nous », le titre de l'article, c'est « Sommes-nous en train d'éteindre les lumières. » Les lumières avec un L majuscule, c'est l'époque des lumières où on a, les penseurs, les philosophes du temps disaient qu'on arrivait dans une nouvelle ère où l'homme va être capable de réfléchir à sa vie et penser rationnellement. Puis là, on a l'impression, M. Bergeron a l'impression que les lumières se ferment. Il dit, souvenons-nous par exemple de l'arrivée des premiers guichets automatiques implantés dans les caisses populaires. Quelles étaient performantes ces machines? Plus besoin d'interagir avec les humains pour faire un dépôt, retirer de l'argent ou payer ses factures. Les caissières n'ont plus à donner ses services. Ce sont bien des illusionnés. ce sont les caissières qui n'ont plus à donner ces services se sont bien désillusionnées en s'imaginant qu'elles allaient enfin pouvoir s'adonner à des tâches valorisantes. Aujourd'hui, les caissières ont disparu, tout comme de nombreux guichets automatiques, et il en revient dorénavant à chacun d'entre nous, isolés dans nos cocons numériques, de faire nos transactions bancaires à l'aide de notre téléphone intelligent. Il parle d'un autre exemple aussi. Vous connaissez peut-être cette histoire de la jeune fille branchée qui, pour le bien de son grand-père, tente de convaincre ce dernier d'ouvrir un compte Internet à sa banque afin qu'il puisse faire l'ensemble de ses transactions confortablement assis dans son salon. Devant l'insistance de sa petite-fille, le vieillard lui a finalement expliqué que faire ses transactions sur Internet viendrait à le priver d'une des dernières occasions qui lui reste pour aller marcher à l'extérieur, saluer ses voisins et échanger avec les amis qu'il s'est fait à sa banque au fil des années. Et ben là, il parle des Lumières. Plus tard dans l'article, il nous parle de philosophe des Lumières qui est Kant. En 1784, Emmanuel Kant écrivait un opuscule d'à peine 10 pages intitulé « Qu'est-ce que les Lumières? » Pour le philosophe allemand, le 18e siècle, que l'on disait éclairé déjà à son époque, se démarquait des autres siècles par la somme des connaissances accumulées, par les exploits techniques réalisés et aussi par la lutte contre les superstitions qui, depuis longtemps, ont empoisonné l'existence de trop d'êtres humains crédules et ignorants. Mais, pour Kant, ce qui caractérisait avant tout son siècle était le fait que de plus en plus d'êtres humains avaient réussi à sortir de cet état de minorité, c'est-à-dire d'immaturité et de dépendance à l'endroit des autorités, de leurs maîtres ou de leurs supérieurs, lorsque venait le temps de réfléchir, de donner une opinion ou de construire une augmentation. D'où la devise des Lumières que Kant formule ainsi, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Toutefois, alors, là, plus loin, il dit, c'est M. Bergeron toujours, nous explique que, toutefois, pour répondre à cette question, je crois que nous aurions avantage à nous concentrer non pas sur les aspects pratico-pratiques de ces outils, mais plutôt sur les réponses que l'on est ou serait en mesure d'apporter à un ensemble de questions existentielles et fondamentales, dont celle-ci. Les technologies font-elles la promotion des valeurs humanistes qui sont au cœur de notre civilisation? Devenons-nous, grâce à elles, de meilleures personnes? Servent-elles à la consolidation et à l'épanouissement de nos démocraties? Nous permettent-elles d'être plus éclairées, d'améliorer nos relations sociales, de renforcer nos solidarités, de créer du commun et de donner davantage de sens à notre existence? Surtout, ces technologies numériques développent-elles chez chacun d'entre nous le désir, le courage et la volonté d'utiliser notre propre entendement et penser par nous-mêmes et à faire preuve d'autonomie? Alors, c'est une bonne réflexion sur les nouvelles technologies dont on a beaucoup tendance à être émerveillé, mais finalement, il y a, par après, on voit là, qu'il y a un désenchantement qui suit. Aussi, il y a un article aussi de José Blanchette qui parle d'une émission de télé-réalité que j'ai pas vue. Parce que c'est pas une télé-réalité, c'est une série qui ressemble à une télé-réalité. Le nom de la série, c'est « Plus qu'un jardin », c'est avec Edith Cochrane et Emmanuel Bilodeau. Mais ce qui est intéressant à l'article, elle nous parle comment de plus en plus on va devoir être plus plus autosuffisant, s'intéresser à l'agriculture, à l'autonomie. Puis, l'émission, le titre de l'article, c'est « Les arpents verts », puis l'émission porte une espèce d'expérience d'autarcie. C'est pas l'autarcie complète, mais une sorte d'autarcie. En tout cas, je trouve intéressante. Et puis, justement, dans la même veine, il y a tout le dossier là, des terres des Sœurs de la Charité, puis le parc agricole public qu'on veut faire, dont les Amis de la Terre sont impliqués. Puis ça, c'est quelque chose que je vous invite à suivre parce que, justement, ça sera une belle expérience collective, espérons-le, de reconnecter avec la nature, d'avoir un parc qui va être un peu éducatif, qui va permettre aux gens de reconnecter avec la nature, avec l'agriculture. Espérons là, qu'on va utiliser là, les idées, les préceptes de la permaculture. Alors, c'est un dossier qui est à suivre puis qui va bouger cet automne. Alors, je vous invite à suivre ça. Alors, on prend une pause musicale. Pour retour, on va être avec M. Pigeon puis qui va nous parler de sa thèse là, sur les jeunes et les changements climatiques.
J'ai le contraire du rire dans la peau et j'arrive pas à le faire sortir. Il y a toujours une petite tristesse perdue dans un pli de mon âme, dans un pli de mon âme, dans un pli de mon âme. Je ne sais pas comment le contraire du rire est entré dans ma peau. J'étais un enfant aimé très très beau, j'étais un enfant aimé très très beau. J'ai vécu 9 mois sur une île au milieu de l'eau, puis j'ai dû partir tenter ma chance tout seul, tenter ma chance tout seul, tenter ma chance tout seul. Et peut-être est-ce à ce moment-là que dans les plis de mon âme se sont glissées des pensées chagrines, petites comme des gouttes de pluie fine, mais régulières et taraudeuses, et mangeuses de bonne humeur horlogère. Parfois, une jeune femme vient me voir, elle me dit : je suis l'océan, tu es l'île, je suis l'océan, tu es l'île. Je suis heureux et elle est heureuse, et je suis heureuse et elle est heureuse. Mais le contraire du rire attend à la porte de moi, et dès qu'elle est partie, il profite d'un moment d'inattention pour se glisser subrepticement, subrepticement. Toi qui passes ici si tard, compagnon de la marjolaine, pourquoi le contraire du rire au cœur même de mon empire? Pourquoi le contraire du rire au cœur même de mon empire? J'ai le contraire du rire dans la peau et j'arrive pas à le faire sortir. Il y a toujours une petite tristesse perdue dans un pli de mon âme, dans un pli de mon âme, dans un pli de mon âme.
Alors, c'était Julos Beaucamp de son album Tour, Temple et Pagode. C'était la pièce Les Roses de l'automne. Avant ça, on avait eu Richard Séguin. Toujours l'album Retour à Walden, deux pièces de l'album, intro, écriture et Devant moi la vie. Puis, comme à l'habitude, je vous ai lu un extrait de Walden en début d'émission. Alors, voilà. Alors, Monsieur Pigeon, vous êtes avec nous?
Je suis là, Monsieur Delors.
Bonjour. Alors,
bonjour à vous.
Bien content de vous avoir avec nous. Alors, c'est ça, je disais tantôt que vous avez dit, parce que, bon, je pense qu'on va commencer par parler de vous, là. Monsieur Pigeon, vous étiez, entre autres, vous aviez déjà été le recteur de l'Université Laval. Alors, vous aviez tout un parcours professionnel assez imposant, là. Vous avez été même député. Puis, vous avez décidé, à votre retraite, de retourner à l'université pour faire un doctorat en sociologie.
dans le domaine de la sociologie sur les changements climatiques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de qu'est-ce que pourquoi vous avez pris ce virage-là ou ce, parce que c'est presque un virage là, par rapport à votre carrière précédente?
C'est certainement un virage, mais je vous dirais, toute ma vie, en fait, je me suis intéressé aux questions sociales, aux questions environnementales depuis fort longtemps. Et une petite anecdote, un jour, je dis à ma fille, « Est-ce que je t'ai déjà parlé d'environnement, Mireille? » Elle me dit, « Voyons, Michel, ça fait 20 ans que tu m'en parles. » Alors, en fait, j'ai fait ma carrière d'ingénieur, j'ai fait ma carrière de professeur, de chercheur. Puis, mais à travers ça, malgré tout, j'ai toujours eu des préoccupations sociales. J'ai été membre d'Amnesty International, membre actif pendant une dizaine d'années. Et donc, après mon parcours universitaire, comme vous avez expliqué, j'ai été recteur d'université. Ensuite, j'ai été député. Et là, quand ma carrière de député s'est terminée par la bonne volonté des électeurs, je me suis donc demandé qu'est-ce que je peux faire d'intéressant. J'ai fait une réflexion et après avoir travaillé un petit peu, je dirais comme ingénieur, un peu sur aider mes collègues du département de génie civil, j'ai commencé à faire des lectures sociologique et environnementale, guidée en cela par ma fille Catherine Desrivières, qui est prof de sociologie à l'UQAM. Et un jour, un de mes amis m'a dit, « Moi, je donne un cours de sociologie de l'environnement, ça t'intéresserait. » Et donc, j'ai suivi ce cours-là, je pense que c'était à l'hiver 2014. Puis, comme on dit en québécois, j'ai mis la main dans le tordeur. Ça m'a intéressé. Je me suis inscrit à la maîtrise, j'ai fait la maîtrise, je me suis inscrit au doctorat, j'ai fait le doctorat. Et maintenant, ben, je suis professeur associé en sociologie. Puis, je dirais, je me suis un petit peu donné comme travail d'aider à la sensibilisation des gens sur les questions environnementales. Si vous voulez parler de mes motivations, j'ai des petits-enfants et j'aimerais bien que quand ils seront grands, quand ils seront adultes, quand ils auront 50 ans, qu'il y ait des conditions de vie agréables et correctes.
Fait que c'est ça la motivation, en fait, c'est pour l'étude sur les changements climatiques, c'est deux préoccupations, les jeunes, parce que vous avez des petits-enfants, et leur avenir, les changements climatiques, je comprends bien.
Ma conviction profonde depuis très longtemps, c'est que les questions environnementales sont des questions sociales. Ce sont les comportements humains qui sont déterminants dans l'avenir de la planète. Alors, beaucoup de gens font toutes sortes de recherches qui vont jusqu'à la géo-ingénierie, comme vous avez peut-être entendu parler, là, pour essayer de voir comment on pourrait refroidir la planète. Mais la réalité, c'est qu'à la base, ce sont des êtres humains qui travaillent, qui agissent, qui pensent, qui font des choses, qui développent, je dirais, l'économie, qui développent les méthodes d'extraction et tout, et tout, et tout. Et donc, l'être humain est globalement responsable de cette planète qui est, comme disais, j'oublie là, le nom du penseur, mais la planète, en fait, c'est comme un vaisseau spatial. Alors, on n'a pas le choix. Il faut faire avec les ressources qu'on a.
C'est Buckminster Fuller qui disait ça.
Ah, ben vous avez raison, c'est Buckminster Fuller qui a dit ça, tout à fait.
Qui était très à la mode à la fin des années 60, on n'en parle plus beaucoup là, aujourd'hui, là. Mais c'était un des pionniers de l'écologie, de la pensée écologique, là, Buckminster.
Ben, c'est quelqu'un qui a réfléchi, effectivement. Parce que vous parliez tout à l'heure de Régent Bergeron et de ce qu'il a dit sur les lumières. Et ben moi, ça m'a rappelé, je dirais un peu, mon enfance. Dans mon enfance, je dirais dans ma famille, mes parents, mon père, là où j'ai étudié, on m'a beaucoup enseigné l'autonomie de la pensée. Alors, vous vous posiez la question avec Régent Bergeron, où va-t-on avec ça? Est-ce que les technologies peuvent, je dirais, nuire ou aider? Et à mon avis, c'est les deux. Si on les utilise bien, les technologies sont bonnes. Si on les utilise mal, les technologies ne sont pas bonnes. Mais l'autonomie de la pensée demeure le cœur de l'être humain.
Ben oui, puis quand même, vous, vous avez un parcours technique. Alors, vous auriez pu justement vous intéresser à la géo-ingénierie, justement. Puis vous êtes allé du côté de la sociologie, ce que nous, on, d'ailleurs, à l'émission En toute simplicité, on pense que c'est d'abord une question sociale, le problème d'écologie. C'est une question, on va en parler dans le deuxième bloc, là, au retour de la pause musicale, une question de changement de valeur. Donc, c'est quand même, je trouve que vous avez un parcours que je trouve intéressant de ce côté-là, d'ailleurs. D'aller du côté de la sociologie. Là.
J'ai un parcours, je dirais, atypique, mais un de mes amis vous dirait qu'il y a une ligne de force à travers mon parcours, c'est que j'ai toujours été avec des jeunes. Je me suis toujours intéressé aux jeunes. Un prof, sa vie avec des jeunes, le prof vieillit, mais les élèves restent toujours du même âge. Les jeunes restent jeunes. Et donc... dans ma vie, j'ai essayé d'être un prof, j'ai essayé d'être aussi un mentor, un accompagnateur, je dirais, transférer un certain nombre de valeurs aux jeunes qui m'entourent et que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Et je peux me permettre de vous dire que lorsque j'ai suivi différents séminaires de maîtrise et de doctorat, où, comme vous savez, on fait des lectures préalables, on discute ensemble, j'ai trouvé les jeunes formidables. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que tout va mal, les jeunes, etc. Non, au contraire. Les jeunes que j'ai rencontrés dans mes séminaires de maîtrise et de doctorat, les jeunes que j'ai rencontrés pour ma thèse, je les trouve formidables.
Bon, OK. Là, on va prendre une pause musicale, puis là, on va rentrer plus dans, au retour de la pause dans le cœur de votre recherche. Là. Vous allez nous expliquer un peu comment vous avez procédé, qu'est-ce que vous avez fait. Puis, vu qu'on est une émission qui s'intéresse à la simplicité volontaire, moi, j'ai vu des liens là, évidents là, dans votre recherche avec la simplicité volontaire. Donc, on va regarder ça au retour de la pause musicale.
Sedici anni è bella, traverso la foresta e stava per venire. E a quel punto lei arrivò, da un nascondiglio un uomo spuntò. E a quel punto lei arrivò, da un nascondiglio un uomo spuntò. La prese per la mano e lei la gettò un grido, le disse oh bella taci, se parlerai t'uccido. Prima il denaro consegna me e poi l'onore lo voglio da te. Prima il denaro consegna me e poi l'onore lo voglio da te. Si è messa a gridare, lasciatemi andare che mamma mi è malata. Se mamma tua le ama là, voglio godere la tua libertà. Se mamma tua le ama là, voglio godere la tua libertà. E allora la ragazza si è messa in ginocchioni, vendatemi gli occhi con questo fazzoletto. Mamma non piangere per il dolore, meglio la morte che il disonore. Mamma non piangere per il dolore, meglio la morte che il disonore. Thank you.
Alors, c'était l'accordéoniste Andrea Capezzuoli de son album Intrecci. Et c'était la pièce Conosco una ragazza. Alors, Monsieur Pigeon, on va revenir dans votre thèse. Mais en fait, j'ai oublié de le mentionner, c'est que aussi, vous avez fait comme un condensé de votre thèse. C'était publié aux éditions des presses de l'Université Laval. Le titre du livre, c'est « Les jeunes et les changements climatiques ». J'ai jeté un coup d'œil, c'est bien fait. La première partie est trouvée intéressante comme un résumé
une mise en contexte du problème, et de la question.
Exactement, une bonne mise en contexte du problème. Et il y a des réflexions intéressantes. On dit, à un moment donné, on peut constater que pour motiver la population face au changement climatique, il faut s'appuyer sur des valeurs positives, car la peur ne fonctionne pas. Alors, c'est ça, c'est que moi, j'aime ça parce que c'est ce qu'on fait, nous, avec le groupe de Saint-Pierre volontaire, c'est qu'on on s'intéresse à des nouvelles valeurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Bien, d'abord, je voudrais vous dire, vous avez dit tantôt, tu sais, pourquoi cette recherche-là? Je voudrais juste rappeler que la question des jeunes, comme ils sont les premiers concernés parce qu'ils vont vivre leur vie dans le prochain siècle, moi, j'ai vraiment fait la réflexion que c'était à eux de définir la société du futur. Et donc, dans ma thèse, je me suis questionné, je les ai questionnés, en fait, sur les changements sociaux les contraintes sociales qu'ils sont prêts à accepter, comment ils voient la société du futur. Et pour ça, et là, je vous rejoins sur la question des valeurs, je les ai beaucoup questionnés sur leurs valeurs, parce que les valeurs, c'est déterminant dans les actions qu'on pose. Hein? Les valeurs déterminent nos comportements ou orientent nos comportements, certainement, et orientent aussi, bien sûr, la société qu'on souhaite. Et vous parliez à l'instant là, de valeurs positives. Alors évidemment, les valeurs négatives, la peur, bien évidemment, si on essaie de dire aux gens « Ah, c'est terrible, les changements climatiques, on va tout détruire, sauf qui peut », c'est pas très motivant. Et les mécanismes cognitifs font en sorte qu'on oublie ça le plus rapidement possible. Tandis que si on dit aux gens « Voici ce qui s'en vient », et comment, ensemble, peut-on construire un monde meilleur, plus agréable? Donc, orienter les gens vers le positif. Et ce que vous dites concernant la simplicité volontaire, je suis absolument pas un expert là-dedans, mais j'en comprends que c'est comme ça que vous voyez les choses. Ce qui domine, ce sont les valeurs positives. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Est-ce qu'on peut être créatif? Est-ce qu'on peut avoir, vous en avez parlé tantôt, de meilleures relations sociales, donner un sens à notre vie? Et donc, c'est tout ça qui m'a porté vers le travail que j'ai fait. Et pour rapidement l'esquisser, là, c'est important de dire que c'est pas un sondage que j'ai fait, ce sont des entrevues d'environ une heure et quart. Et ces entrevues-là, des jeunes à la fois de l'université, du cégep technique et même maintenant récemment du secondaire professionnel, alors ce sont des entrevues et ça permet de questionner les jeunes sur leurs valeurs, leurs motivations, comment ils comprennent le réchauffement climatique, quelle société ils souhaitent économiquement, politiquement, socialement, etc., et comment ils pensent qu'on peut se rendre là. Et donc, l'idée des entrevues, c'est d'ajouter de la compréhension et non pas de quantifier, il y a tant de ceci, puis il y a tant de cela. Puis les résultats, bien, de façon très, très, très simple, ce qu'il faut dire, et c'est très important, c'est qu'évidemment, il y a différentes options, il y a différentes visions chez les jeunes. Et moi, j'ai dans ma thèse, et je l'explique un peu dans mon livre aussi, pour ceux que ça intéresse, j'ai vu qu'il y avait des lignes de fracture, des lignes de partage. Et ces trois lignes-là sont importantes parce que il y a des gens qui pensent qu'il faut vraiment radicalement changer l'économie, d'autres qui sont plus modérés, qui pensent qu'on peut, je dirais, corriger les défauts de notre système actuel. En plus, il y a une autre fracture entre les gens qui ont une grande confiance en l'être humain et ceux qui ont beaucoup moins confiance et donc qui voudraient beaucoup plus de contrôle social. Et finalement, une troisième ligne entre ceux qui voient la question des inégalités sociales comme, je dirais, imprégnant tout le problème et donc qui considèrent qu'on doit traiter en même temps les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux, et d'autres qui pensent qu'on peut traiter l'environnement à part. Alors ça, ça résume un petit peu, si vous voulez, je dirais l'essentiel de ce que j'ai voulu comprendre de ce que les jeunes pensent.
Ça rejoint la simplicité volontaire dans le sens que nous, le message à simplicité volontaire est un message que je dirais positif. Parce qu'on dit aux gens, écoutez, quand on simplifie notre vie, j'en ai parlé un peu au début, c'est que avec le message de Taureau, c'est comme les philosophes simplifiaient leur vie pour vivre une vie plus riche dans le fond. Il y a comme un paradoxe, puis notre société valorise tellement la surconsommation qui est malsaine, et puis qui la surconsommation, c'est comme un piège, comme un évitement des choses qui sont plus intéressantes de la vie. Alors, nous on pense que ces valeurs-là, on les retrouve de plus en plus chez les jeunes. Je pense que vous en avez parlé, d'ailleurs, dans votre...
Bien, absolument. La question de la surconsommation, c'est revenu sans arrêt. Hein. Chez les jeunes que j'ai interviewés, là, puis qui n'étaient pas, là, des écologistes radicaux, là. C'était des gens qui avaient envie de me parler de comment ils voyaient les choses. Et le monde de la surconsommation, là, je dirais, c'était quasi, là, unanime. Je dirais le rejet de la surconsommation. Et comme disait là une sociologue française dont j'apprécie beaucoup les écrits, elle disait, une société, c'est beaucoup plus que des gens qui échangent. Notre société est comme basée sur l'économie. Les décisions sont toujours économiques, mais dans la société, on a besoin, je dirais, de développer des activités créatrices, culturel, développer les liens sociaux. Quand vous avez parlé du grand-père qui allait à la banque et qui rencontrait les gens, bien, c'est fondamental. Si on ne peut pas tisser de liens sociaux, bien, on n'a pas de société. Et l'être humain, et c'est ma grande conviction, est essentiellement social. Et c'est ça qui le rend heureux. C'est les liens sociaux. Il y a des grands... je dirais, en guillemets, savants, et qui ont, là, comment il s'appelle, George Herbert Mead, là, qui ont théorisé ça, là. On ne devient un être humain que par les liens sociaux. C'est en échangeant sans arrêt avec les autres. Au départ, bien, c'est la mère, puis ensuite, vous pouvez imaginer toutes les activités sociales qui se développent. Mais l'être humain n'existe et ne se développe qu'en tant qu'être social.
Tout ça, ces connaissances-là devraient se traduire dans la façon dont nos sociétés se développent. Puis on a un modèle de société qui était omnubilé là, par le progrès là, dans les années 40-50, puis d'où on a développé les banlieues, puis le American Way of Life, le rêve américain. Mais le rêve américain, il isole les gens. Même, vous devez connaître ça, il y a un grand sociologue américain qui écrit un livre qui s'appelle Bowling Alone. C'est que...
Ah, j'ai lu ça, oui, c'est Putnam, je pense, qui a écrit ça.
Oui.
Robert Putnam.
Oui,
ben, c'est ça.
Il parlait de...
Bowling Alone.
Exactement. Puis lui, il parlait du capital social. Le capital social.
Exactement.
C'est ça qu'il faudrait. Il faudrait penser, au lieu de penser développement. At large des banlieues puis tout ça, qui isole les gens. Il faut revoir nos façons de vivre pour que les façons de vivre qu'on a développent le capital social. Et ça, c'est pas compliqué à faire.
Mais il y a des organismes qui se vouent à ça maintenant, là. Je dirais, et je pense à l'organisme Vivre en Ville, mais il y en a plein d'autres, là. Il y a beaucoup d'organismes qui réfléchissent là-dessus, sur la manière d'organiser la vie sociale. Et tant qu'à parler des étudiants et de ce qu'ils m'ont raconté, là, quand je les questionnais sur les questions de l'habitation, beaucoup revenaient sur cette question-là qui est très sociale, hein. Alors, soit des habitations coopératives, soit du bigénérationnel, ou des habitations qui permettent facilement les liens. Et comme vous dites, ben les banlieues, ça écarte les gens, ça fait pas un gros voisinage. Hein?
Non.
Et moi, je pense que là-dessus, là, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à changer notre façon de penser.
Puis c'était un exemple de simplicité volontaire parce que la banlieue, on gaspille, parce que ça coûte cher entretenir un banlieusard beaucoup plus qu'un citadin. Et alors, on condense, mais il y a une façon de le faire aussi. Pas nécessairement de façon automatique. Là. Il y a une façon de densifier les villes tout en ayant à l'idée de la convivialité, de rendre le milieu convivial.
Non, mais tout à fait. Et là-dessus, je pense vraiment que... Moi, je pense que c'est nécessaire que la société évolue dans cette direction-là. Maintenant, comme on disait tantôt, il faut un peu vendre cette idée-là aux citoyens. Et pour vendre cette idée-là aux citoyens, il faut des valeurs positives.
Ouais.
Et il ne faut pas dire aux gens, on va vous enlever quelque chose.
C'est sûr.
Il faut dire aux gens, on va vous donner quelque chose.
C'est sûr.
On va vous favoriser les liens sociaux. On va favoriser l'entraide.
Moi, j'ai parlé à des jeunes, justement, dernièrement, puis vous avez certainement vu ça, les nouveaux indices de qualité de vie. Là. Avant, on mesurait le succès d'une société juste par le PIB. Puis ça, les jeunes sont au courant de ça, les nouveaux indices de qualité de vie. C'est...
Mais ça, c'est exact. Et moi, c'est pour ça que j'emploie pas le mot « décroissance », parce que je pense que on peut continuer, on doit continuer de progresser vers une meilleure qualité de vie. Et quand vous dites que c'est ce que les jeunes souhaitent, ça a même été conceptualisé par des sociologues en Europe. On a appelé ça la période qu'on a vécue, je dirais, depuis le début de la fin du 19e, début 20e, c'était la modernité. Les changements, on est passé de la tradition à la modernité. Mais là, on est dans une seconde modernité où la qualité de vie prend le dessus. Mais j'aimerais dire, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rejeter la technologie. La technologie nous a permis de faire des gains, et elle a permis de faire des gains, je dirais, d'éducation. On a enrichi nos sociétés par plus d'éducation, des meilleurs soins de santé et par l'allongement de la durée de vie. Thomas Piketty, dont nous avons parlé ensemble, si vous vous en souvenez, là, il disait, si vous voulez voir ce qu'on peut faire de bien, il dit, regardez la société en 1980, puis regardez-la maintenant, puis il y a bien plus de monde à l'université, donc il y a bien plus de monde qui étudie, les soins de santé sont meilleurs, etc., etc., sur 40 ans. Donc, il faut bien l'orienter, il faut s'assurer que on fait les choses correctement, mais moi, je ne serais pas de ceux qui rejetteraient par principe les développements technologiques. L'être humain, c'est naturel chez lui, il veut connaître, hein? L'être humain, il recherche.
Ouais.
Et ça fait partie de... Mais comme on dit les étudiants, il faut bien l'orienter, cette recherche-là.
Il faut le réfléchir, c'est ça. Il faut avoir une vision, puis c'est pas en agissant de façon automatique, là. Il faut toujours ajuster en fonction de valeurs, justement. On va revenir, pour conclure, on va prendre une petite pause musicale, puis on va revenir là-dessus, les valeurs, parce que c'est comme le cœur de votre...
Tout à fait.
Alors, on prend une dernière petite pause musicale, puis il va nous rester quelques minutes pour conclure. c'était l'ensemble Caprice. C'est une pièce de Bach. C'est un concerto numéro 1, Adagio. Et pour ceux que c'est, je les ai vus en spectacle à l'église Saint-Dominique, aux Journées de la culture, ils étaient vraiment excellents. Et ils sont en spectacle de ce soir au Palais Montcalm, pour ceux que ça intéresse. Alors, M. Pigeon, pour conclure notre émission, qu'est-ce que vous allez nous dire, quand, justement, là, c'est le cœur de votre recherche là, par rapport aux valeurs qui évoluent chez les jeunes?
Bien, ce que j'aimerais dire sur les valeurs, c'est que on s'est parlé ensemble de Ronald Inglehart, là, qui a conceptualisé là, la question des valeurs dites post-matérialistes. Puis il a réfléchi à ça toute sa vie, il est décédé récemment. Mais ce qu'il en a conclu, c'est que lorsque on est jeune et qu'on est éduqué dans un milieu où les ressources sont limitées, bien évidemment, c'est la survie de l'être humain qui compte et ça oriente beaucoup les valeurs dont on est imprégné et maintenant, on dirait que c'est des valeurs conservatrices. Lorsqu'on est éduqué dans un monde où, je dirais, la survie est assurée, je dirais, dans une social-démocratie où, je dirais, il y a de l'assurance chômage si on n'a pas de travail, on s'occupe de vous si vous êtes malade, on s'occupe de vos retraites, etc. Et à ce moment-là, les valeurs deviennent plus des valeurs dites post-matérialistes, expression de soi, développer sa créativité, sa propre compétence, etc. Et donc, c'est un monde que l'on qualifie de, je dirais, non pas individualiste, mais où règne l'individualisation. L'individu veut s'exprimer et il n'est pas qu'un morceau de la collectivité. Et si on est élevé donc dans des valeurs post-matérialistes, ben c'est clair que avec le remplacement des générations une après l'autre, à un moment donné, c'est un, je dirais, c'est presque tout le monde qui vient avoir ces valeurs-là, si tout le monde a été éduqué dans des valeurs post-matérialistes. Et donc, je dirais, puisqu'on est un peu vers la fin de l'émission, j'aurais envie de dire, soyons positifs. De plus en plus, les jeunes sont éduqués dans des valeurs, je dirais, environnementales, entre autres, et ces valeurs-là, ça reste. Et les valeurs étant relativement stables, on peut penser que les jeunes, lorsqu'ils vont être un peu moins jeunes, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, que les générations vont se remplacer. Donc, on va vers un monde où il y aura beaucoup plus de gens orientés vers des valeurs, je dirais, plus positives, autres que la lutte pour la survie. Et ça, ça me, je dirais, c'est un peu ma vision positive des choses.
Écoutez, on est effectivement rendu à la fin de l'émission, alors je vais retenir ça, ce concept-là, les valeurs post-matérialistes. Et ben voilà, écoutez, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient rencontrer M. Pigeon, peut-être se procurer son livre ou tout simplement aller un peu plus approfondir un peu là, ce qu'on a discuté aujourd'hui, ben je vous rappelle là, que c'est jeudi prochain au Salon du communautaire à 16h. C'est au centre d'achat, Place 4 Bourgeois. Et ben, je vous remercie beaucoup, M. Pigeon, pour nous avoir partagé votre travail. C'était très, très intéressant.
Ben, merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer. C'est avec plaisir que j'ai participé à l'émission. Et je peux dire à ceux et celles qui viendront à ma conférence jeudi de la semaine prochaine que je répondrai à leurs questions.
Super. Puis là, voilà. Ben, pour terminer l'émission, un peu dans la même ligne de pensée, je vais lire une publicité. C'est le gouvernement du Québec qui fait une consultation jeunesse. Alors, c'est une publicité que je lis du gouvernement du Québec. Alors, voilà. « Viens te faire entendre lors de la consultation publique pour la jeunesse qui se tiendra le jeudi 19 octobre au Palace Royal de Québec. Le gouvernement du Québec veut connaître tes aspirations, tes besoins et tes préoccupations sur une foule de thèmes et d'enjeux comme l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté. Pour connaître tous les détails, rends-toi au québec.ca/consultation-jeunesse. Ta voix, ton Québec, exprime-toi maintenant. Alors, merci encore, M. Pigeon. Et moi, on va se voir jeudi, je vais y être. Alors, bonne semaine.
Avec grand plaisir. Merci. Au revoir.
Bonjour.
Radio Urbaine.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux.